À l'émission Sous l'Olivier, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre Marche en ma présence, animée par le regretté Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.
L'image qui décrirait le mieux une personne spirituelle, c'est probablement l'image de quelqu'un tourné vers l'avenir, le visage en plein soleil, et qui vivrait intensément de la résurrection du Christ. Un fils, une fille de la résurrection, comme dit Saint Luc dans son évangile. Il y a trois façons de bloquer notre vie dans son aspect de devenir. On peut fuir en arrière, dans le passé. On peut fuir en avant, dans le rêve, dans l'avenir. Ou on peut se bloquer dans le présent, ne voulant rien savoir de ce qu'il y avait avant puis de ce qu'il y a après. Ces trois façons sont des façons de refuser notre condition humaine qui est une condition de cheminement. Marche, marche en ma présence, dit le Seigneur. Comment tisser les fils du passé et de l'avenir? Si nous reprenons les trois façons de bloquer, nous comprenons que c'est la résurrection qui finalement est capable de transformer tout le trajet de notre vie humaine et de faire de nous des belles créatures vivantes, dynamiques. On peut fuir en avant, surtout quand on est jeune, par impatience. On peut fuir dans le rêve, dans le futur, dans l'imagination. Pascal disait, on ne vit pas, on s'attend de vivre. Quand on est au primaire, on se voit au secondaire. Quand on est au secondaire, on se voit au cégep. Puis quand on est au cégep, on se voit à l'université. Quand on est à l'université, on se voit marié. Puis on vit toujours 3 ans à l'avance. Tentation d'impatience. Les jeunes vivent de rêves plus que de réalité. On peut fuir aussi dans le présent, surtout quand on est dans la fleur de l'âge, quand tout nous réussit présentement. On ne veut rien savoir ni du passé ni de l'avenir, on s'absorbe et on se dissout dans notre travail, dans l'instant présent, sans projet ni mémoire. Ou encore, on peut fuir dans le passé. Surtout quand on avance en âge, quand on est vieux. En refusant le présent et la nouveauté, en se réfugiant dans la mémoire, en ressassant le passé, l'expérience, oubliant le présent et le futur. Il y a quelqu'un qui a pris comme un compliment ce qu'on lui disait. On dit « Mon cher monsieur, vous voyez loin. » Il était tout heureux d'entendre cela, sauf que son interlocuteur a juste ajouté « Vous voyez loin dans votre rétroviseur. » On peut vivre sa vie dans le rétroviseur. Dans notre temps, tout allait bien. Ces trois manières sont des façons de nier la temporalité, d'éviter le devenir lent. Il faut savoir harmoniser ces trois réalités, assumer son passé, vivre dans le présent, mais s'ouvrir à l'avenir, à la fois mémoire et imagination, à la fois tradition et projet, et cela dans le concret de mon quotidien, équilibrer ma vie, se poser la question comment je vis ma vie, à quel temps je conjugue ma vie concrète. Évidemment, l'avenir peut être bloqué. L'avenir peut faire peur, surtout quand on a été échaudé, comme dit le proverbe, « chat échaudé craint l'eau froide ». Il est important de s'arrêter pour débloquer l'avenir. Et pour voir comment débloquer l'avenir, rien de mieux que de contempler le très beau récit des disciples d'Emmaüs. Vous savez ce que disait Jean Quitton à propos de ce récit? Il disait que si on nous demandait de jeter la Bible, de se débarrasser de toute la Bible et de n'en conserver qu'un passage, il disait « Je choisirais Emmaüs parce que dans le récit d'Emmaüs, nous avons un résumé d'Évangile. » L'exégète, sœur Jeanne d'Arc, disait la même chose. Emmaüs, c'est vraiment une sorte de raccourci d'Évangile, une sorte de synthèse d'Évangile. C'est le plus beau des récits de Pâques. Le plus beau et le plus élaboré, si on peut dire, dans le chapitre 24 de Saint-Luc. Le récit d'Emmaüs tient pratiquement la moitié du texte. Un beau récit très bien écrit. Si j'étais metteur en scène ou cinéaste, je diviserais ce texte avec Jacques Dupont en trois actes. Nous avons là un drame en trois actes. Le premier acte, c'est Jésus qui s'approche, qui écoute, qui donne la parole aux disciples d'Emmaüs et qui écoute longuement. Deuxième acte, la situation est renversée, c'est Jésus qui parle, qui prend la parole, et les disciples écoutent. Troisième acte, comme si l'un et l'autre, les disciples, Cléophas et Jésus, s'étaient présentés après l'autre. Le troisième acte, c'est la rencontre effective à travers le repas partagé. Remarquez qu'à la messe, on retrouve ces trois temps. La célébration pénitentielle au début de la messe, et ce sont les fidèles qui prennent la parole. Comme si le Seigneur Jésus nous disait « Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? De quoi vous discutez en chemin ?» Dites-moi ça au point de départ. Le deuxième acte dans la messe, la deuxième partie de la messe, c'est la célébration de la parole. Ça correspond vraiment à la prise de parole de Jésus dans le récit des disciples d'Emmaüs. Et enfin, le troisième acte, très clairement, dans la messe, c'est l'Eucharistie, correspond au repas partagé chez les disciples d'Emmaüs. Un très beau récit qui nous montre, j'allais appeler ça un virage ambulatoire, mais comme l'expression n'a pas bonne presse, je vais appeler ça un grand retournement de la situation, une grande transformation. Les disciples d'Emmaüs, au début, sont déprimés. Ils se désengagent, ils retournent à la maison, à cause de l'expérience négative qu'ils ont vécue, de la mort de Jésus, qui est pour eux comme la mort de Dieu. Tout leur espoir était centré sur ce Jésus, qui était un grand prophète. Et voilà que Jésus est mort, et ils sont déprimés, ils retournent à la maison. Ce qui va se passer, c'est que Jésus lui-même va s'approcher d'eux, et va transformer la situation, renverser la situation. Et vous les voyez, eux, qui vont de Jérusalem à Emmaüs, qui vont retourner d'Emmaüs à Jérusalem. C'est vraiment un renversement total de la situation. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez, ils ont rencontré le ressuscité. Ou mieux, c'est le ressuscité qui s'est donné à rencontrer en s'approchant des disciples d'Emmaüs, en prenant l'initiative de s'approcher pour venir chercher et trouver ce qui était perdu. Les disciples d'Emmaüs ont fait l'expérience de la résurrection au contact du ressuscité et leur avenir a été débloqué. Vous savez ce que c'est que la résurrection du Christ. C'est vraiment le noyau atomique de notre foi chrétienne. Saint Paul le dit, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi, elle est vide. Notre prédication, elle est vaine, elle est vide tout autant. Nous sommes les plus malheureux des hommes et des femmes. La résurrection du Christ, c'est vraiment le noyau atomique de notre foi. Enlevez ça, tout croule. Comment décrire la résurrection du Christ? C'est l'événement le plus important de l'histoire de toute l'humanité. C'est le Big Bang d'un monde nouveau qui est inauguré. Vous savez qu'au fond de notre condition humaine, le grand barrage, le mur qui se trouve à l'horizon de notre vie, c'est la mort. Or, voici que quelqu'un d'entre nous a affronté la mort et l'a vaincu. C'est la prétention des chrétiens qui croient en la résurrection. La résurrection, c'est une percée décisive. Dans la mort, jusque dans la vie, où la mort n'a plus de force, où la mort est épuisée. Elle est tellement épuisée, elle est tellement vaincue, la mort, que saint Paul peut s'en moquer. Ô mort, où est ta victoire? Saint Paul fait des pieds de nez à la mort. Et vous savez qu'il y a une foule de nos ancêtres dans la foi qui se sont moqués allègrement de la mort. Vous connaissez Thomas More, qui a été condamné à monter sur l'échafaud, avoir le cou tranché, et qui dit au bourreau, « Aide-moi à monter pour descendre, ça va aller tout seul. Il faut le faire. » C'est lui-même qui relève sa barbe, puis dit au bourreau, « Tu peux me trancher le cou, mais touche pas ma barbe, parce que ma barbe n'a pas trahi. » Ces personnes qui se sont avancées dans la mort avec la certitude que la mort n'est qu'un passage, que la mort n'est pas l'aboutissement total de notre vie. Nous ne sommes pas promis à la mort, mais à la vie. Comme disait quelqu'un, nous ne sommes pas condamnés à mort, nous sommes condamnés à vivre. C'est la bonne nouvelle, l'essentiel de la bonne nouvelle que le Christ et les chrétiens ont à propager. Notre espérance tient à cela. Le Christ est ressuscité et en lui nous sommes promises à la résurrection. Voilà ce qu'est la résurrection pour nous. Le père Varion faisait toute sa catéchèse aux laïcs. En disant ceci, il faut toujours ajouter au bout du nom de Jésus 6 qualificatifs. Sans cela, nous ne parlons pas du vrai Jésus. les 6 qualificatifs sont les suivants. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Et s'il est vivant, il est présent. Troisième qualificatif. Et s'il est présent, il n'a pas pris sa retraite, il n'est pas endormi. Il est agissant. Il continue d'agir. Mon père et moi, on travaille tout le temps. Et il agit comment? Il agit en transformant. C'est un agent de transformation. Il poursuit son œuvre pour débloquer la vie, pour venir chercher ce qui était perdu. Agent de transformation. Et il transforme comment? Il transforme en divinisant. En nous divinisant. Ailleurs, dans un autre texte, le Père Varillon précise, il ne fait pas de nous des anges, il nous divinise en nous humanisant. 6 qualificatifs qu'on doit toujours appliquer au bout du nom de Jésus. Sans ça, nous ne parlons pas de Jésus, du vrai Jésus. Si ces qualificatifs ne sont pas seulement des mots, mais des réalités, et il faut s'arrêter longuement à accueillir cette réalité de Jésus ressuscité, vivant, présent, agissant, transformant, divinisant, ça veut dire que, au bout de notre vie, ce qui nous attend, c'est une vie en plénitude. C'est illustré par les noces de Cana. C'est du meilleur qui nous attend. Il y en a en masse. Hein, c'est abondant plus qu'il ne faut et c'est gratuit. Voilà ce qui nous attend. Jacques Leclerc disait ceci, « Aimer, c'est partir pour toute une vie à la découverte d'un visage. La fidélité est en avant. Il faut devenir et s'inventer sans cesse. » Et sans cesse s'arracher à la sécurité de l'expérience. L'expérience est centrée sur notre passé. Et vivant à l'affût de l'événement, capter les puissances de vie dont il est toujours porteur. C'est ainsi que l'espérance souvent s'oppose à l'expérience. On ne peut pas penser l'avenir comme une correction du passé ou du présent. L'avenir est accueil de ce qui vient, de ce qui advient. L'avenir est création. L'avenir est invention. Dire cela, c'est affirmer que l'on est de Dieu parce que c'est miser toute sa vie sur cette révélation fascinante. La résurrection de Jésus ouvre l'homme à l'avenir sans limite. Elle libère la liberté et le pouvoir créateur. Parce que c'est là que la tendresse de l'homme prend sa dimension d'éternité. Personne spirituelle, le fils et la fille de résurrection dont parle saint Luc, c'est quelqu'un qui actualise la résurrection dans sa vie. C'est quelqu'un qui, petit à petit, au cours de son existence, découvre le Christ présent, agissant, transformant, divinisant dans son vécu. Il existe une hymne au bréviaire qui est extraordinaire, qui dit ceci, « Puisqu'il est avec nous, tant que dure cet âge, n'attendons pas à la fin des jours pour le trouver. » La résurrection du Christ, pour nous, ce n'est pas un futur, c'est une réalité présente qui nous travaille de l'intérieur. Le Christ ressuscité est en train de nous ressusciter. N'attendons pas à notre mort pour ressusciter. Vous savez qu'il y a une sorte de proverbe qui dit qu'on meurt comme on vit. Voulez-vous savoir comment vous allez mourir? Regardez comment vous vivez vos petites difficultés, qui sont l'équivalent des petites morts à notre mesure, des petites morts très précieuses, parce que ce sont des occasions pour nous de nous pratiquer à ressusciter, de faire l'apprentissage de notre propre résurrection. Nous sommes invités à rencontrer le vivant maintenant, aujourd'hui, dans le concret de notre vie. Je voudrais vous lire une page qui est tirée d'un livre très intéressant, qui porte comme titre « L'expérience dépressive ». Vous savez que l'expérience dépressive, c'est l'inverse de l'expérience spirituelle. L'expérience spirituelle, c'est l'expérience d'avoir du souffle. L'expérience dépressive, c'est l'expérience d'être dégonflé. Ce livre a été écrit par un psychiatre qui s'appelle Yves Prigent, un psychiatre qui écrivait dans la revue Panorama Chrétien. C'est un laïc. Et dans ce texte, Yves Prigent nous dit qu'il découvre dans le concret quotidien la résurrection. La vie fonctionne sous le mode de la résurrection. Jean Corbon disait même que celui qui a la résurrection a la clé d'interprétation de l'histoire, la vie. La vie fonctionne sous le mode de dire. C'est par le passage de la mort à la vie. C'est par le passage d'un moins de vie à un plus de vie. C'est par la résurrection que se comprend l'histoire. Je vous lis ce texte, il parle par lui-même. Je le dis sans complaisance, mais aussi sans pudeur et sans manière. La résurrection, j'en ai fait mon affaire. La résurrection de Jésus est le modèle accompli, épuré, à la ligne historique parfaite de toutes les résurrections, minimes et humbles, ou plus grandes et plus évidentes, que je vois se produire autour de moi chaque jour, et aussi dans ma vie. Il y a résurrection pour moi chaque fois qu'une perte entraîne un gain, un manque, un plus-être, un vide, une plénitude, un silence, une parole vive, une peine, une vie plus profonde, un lâcher, un saisir plus ferme, un départ, un retour joyeux, une demande modeste, un don abondant, le renoncement aux besoins, le jaillissement du plaisir, la maladie, la santé souveraine, le dénuement, la splendeur, la nudité, la dépression, la vraie vie jaillissante. Vis-à-vis de la résurrection, ma démarche fut celle-ci. Je la connaissais en chrétien normalement instruit, comme le moment le plus poétiquement baroque de l'Évangile, l'épisode d'autant plus estomacant que saint Paul nous dit que tout repose sur cette histoire époustouflante. C'était étrange, beau, un peu inquiétant, comme une provocation. Puis vint le moment où, dans ma vie et autour de moi, je constatais des mini et des maxi-résurrections comme des faits d'expérience presque journalière, comme une manière privilégiée de se développer, de s'affirmer autrement, autre, de se renouveler. Je revins alors à l'Évangile et je m'aperçus que ces récits de la résurrection, loin d'être des passages gênants et terriblement surnaturels, pour ne pas dire horriblement magiques, étaient ce qui me rendait compte de ces résurgences, de la vie en plénitude après un passage par un manque, un vide, une béance, une absence, un tombeau. Ainsi pour moi, comme pour beaucoup, je pense, c'est ma vie, dans ses heures et ses malheurs, qui a éclairé, réchauffé, ravivé l'Évangile de la résurrection. La lumière de Pâques, c'est dans le regard des petits et des grands ressuscités de mon entourage que je l'ai d'abord vu. Ce n'est qu'ensuite que je l'ai retrouvé dans le clair-obscur des pages de l'Évangile. Cette personne neuve, jaillissante, venue du plus profond d'une absence, c'est bien l'image de notre désir émergent, énergumène et étonnant du fond de l'abéance, de la faille ontologique. La peine est passée, nous creusant par le milieu. La mort, notre limite, a été acceptée, intériorisée. Nous sommes rentrés en nous-mêmes, descendus aux enfers, et voilà que nous sommes devenus des êtres de désir, mobiles et souverains, modestes et efficaces, toujours ailleurs, toujours mystérieux, comme le Christ ressuscité. Je ne sais pas si vous avez un scénario de votre mort. Ça nous aide vraiment à vivre en ressuscité notre quotidien, de savoir comment on voudrait mourir, ce n'est pas du tout morbide. J'ai un scénario qui est original, j'ai trouvé ça dans un livre, mais c'est historique. Et ce scénario m'inspire beaucoup quand j'ai des difficultés à m'exercer, à ressusciter dans mon quotidien. C'est le duc Louis de Biron, durant la Révolution française, qui était condamné à monter sur l'échafaud, à être guillotiné. Or, comme il y avait beaucoup de monde, il l'attendait en ligne. Il a eu la bonne idée de s'apporter un livre, tant qu'à attendre. Déjà, vous voyez déjà le genre, il lisait son livre, et à mesure que les gens montait sur l'échafaud, il se poussait. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a touché à l'épaule, c'était le bourreau, qui lui disait « c'est à votre tour ». Et là, c'est ce qu'il y a de divin. Il a pris son livre, il a marqué sa page, et il est monté sur l'échafaud. C'est un fait d'humour face à la mort extraordinaire. La mort qui est un passage. Quand j'ai des difficultés, cette histoire me revient. Et elle m'aide à me relever dans mes difficultés et à ressusciter dans mes difficultés. Nous sommes appelés à mettre au bout de notre nom les 6 qualificatifs posés au bout du nom de Jésus, si on veut parler du vrai Jésus. Je suis ressuscité, je suis vivant, je suis présent, je suis agissant, je suis transformant, je suis divinisant. Vous avez là tout un programme de vie. La personne spirituelle, celle qui marche en présence de Dieu, c'est un enfant de la résurrection.
Vous venez d'entendre « Sous l'Olivier » avec Jean-Guy Saint-Arnon, jésuite, prédicateur et auteur.